10 questions à, une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence.
Anne Tategrin, directrice de l'IAP qui gère l'école de la deuxième chance sur le 04. C'est un dispositif qui est financé par l'État et la région, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet d'insertion professionnelle. Parallèlement, il y a une remise à niveau sur les compétences socles, tout ce qui est raisonnement, compréhension. Et soit les jeunes, après, partent en centre de formation, soit ils vont vers l'emploi, le marché ordinaire du travail. Ils sont déscolarisés, soit ils ont arrêté le système traditionnel, soit ils ont fait des premières années de lycée pro ou centre de formation des apprentis. Ils sont issus de l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence. Et on a une école basée à Manosque qui accueille les jeunes du sud du département et une à Digne qui accueille les jeunes du nord du département. Ce partenariat a été initié pour permettre aux jeunes de travailler sur la confiance en soi, sur l'expression orale, savoir aussi communiquer assez facilement et prendre surtout de l'estime de soi.
Voilà, donc c'était Anne Tategrin de l'école de la deuxième chance. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bien sûr, et aussi donc à nos trois jeunes de l'école de la deuxième chance dont nous allons faire mieux connaissance. Et puis l'invité qui est Nicolas Diamantara, vous en saurez plus dans quelques secondes. Alors bonjour à tous, bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Fabio Jouan, j'ai 21 ans, je suis actuellement à l'école de la deuxième chance. Plus tard, j'aimerais créer mon entreprise dans l'espace vert.
Donc, à l'école de la deuxième chance, depuis 4 mois, c'est
ça ? Depuis 4 mois, oui.
Motivé par cette aventure aujourd'hui à la radio ?
Oui, oui, c'est une première à tout.
Oui ? Oui. Il y a du stress ?
Non.
Pas du tout. À l'aise. Alors, on donne la parole à Enzo. Bonjour, Enzo.
Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans et je suis actuellement à l'école de la deuxième chance pour une remise à niveau et pour trouver un apprentissage.
Dans la mécanique, c'est ça ?
En mécanique auto ou en menuiserie.
Et content d'être ici aussi à la radio ?
Oui.
D'accord, bienvenue. Et puis, donc, notre troisième jeune de l'école de la deuxième chance. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Alexandre, 18 ans. Je suis à l'école actuellement de la deuxième chance pour chercher un travail, mécanique moto, pour faire un CAP en mécanique moto.
Merci. Et donc, aussi, ravi de cette première aventure.
Oui, très content.
De radio, mais aussi de rencontre, une rencontre exceptionnelle avec quelqu'un que vous connaissez un peu, puisque certains l'ont eu comme surveillant, c'est ça ? Voilà, donc bienvenue à Nicolas Diamantara. Merci. Si vous voulez vous présenter.
Eh ben, présentation rapide. Donc oui. Nicolas, bientôt 30 ans, moi, hein. Ça passe. Donc comme on a dit, ouais, j'ai eu Enzo d'ailleurs. Quand j'étais surveillant donc au Gassendi, je suis dinois depuis 8 ans. Et du coup, mon travail maintenant, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Milieu montagnard, randonnée et aventure.
Et vous aussi, ça vous fait bizarre de vous faire interviewer par d'anciens
collégiens ? Non, bizarre, non. Non, au contraire.
C'est sympa ?
Moi, c'est sympa, ça met à l'aise, c'est simple, c'est familial. J'ai l'habitude un peu.
Alors, bienvenue. Et puis, je vais laisser les jeunes donc, vous poser plus d'une dizaine de questions. Nico, Trek Attitude. Alors, je vous laisse faire.
Du coup, bonjour.
Et bonjour.
D'où vient votre passion pour la randonnée et à quel âge avez-vous commencé ?
Alors, la rando, moi, c'est un petit peu une histoire de famille. Depuis que je suis petit, je vais tout le temps en montagne avec donc, mes parents, mes oncles, mes tantes. C'est un petit peu la culture de la famille, la montagne. Donc depuis que je suis petit, je fais beaucoup de rando. Du coup, j'ai commencé très tôt, très jeune. Je devais avoir même pas 10 ans, j'étais déjà en montagne avec mes parents. On partait souvent en vacances dans les Pyrénées, où on a visité un petit peu pas mal de choses en France. Et les activités en vacances, c'était la rando. Donc quand j'étais petit, j'aimais pas trop ça. Je râlais tout le temps. Et au final, j'en ai fait mon métier, donc c'est fou. C'est bien, c'est... je pense que les valeurs qu'une famille peut te donner, tu les oublies pas. Et du coup, c'est revenu après... ma période d'adolescence, un petit peu après votre âge là, 20 ans, 22 ans, où j'ai vraiment découvert une vraie passion pour la montagne.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ensuite des vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux ?
Ce qui m'a poussé à me mettre sur YouTube, c'est, je pense, la découverte que ça existait, tu vois, de faire des vidéos sur YouTube par rapport à la montagne, la randonnée en elle-même. Je savais même pas, donc c'était en 2014. Quand j'ai commencé mes débuts un petit peu sur YouTube, et je savais même pas que ça existait. Tu vois, les gens qui se filmaient, qui montaient leur tente et qui dormaient dans la montagne comme ça, je savais même pas. Et en tombant sur ça, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire pareil. J'ai commencé avec mon petit cousin Germain. On était tout juste majeurs. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. On s'est dit, on va proposer peut-être une sortie, deux, trois, quatre. Et ça fait 10 ans, en août 2024, du coup, que je suis sur YouTube. Donc en fait, voilà, ça s'est jamais arrêté. Et on n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Tant que je peux.
Bonjour. Est-ce que vous pensez faire autant de vues en commençant ?
On va dire non, pour rester humble. Et non, on pense jamais, tu vois. Et encore, alors pour la niche qui est la montagne, la randonnée sur YouTube, tu vois, c'est une toute petite niche. Ce qui prend vraiment de la place, c'est le gaming, c'est tout ce genre de choses. Donc non, tu t'imagines pas qu'il y ait autant, entre guillemets, hein, c'est des gros guillemets, parce que c'est comme je t'ai dit, c'est une petite niche et on n'est pas non plus sur des chiffres astronomiques comme certains. Mais par rapport à ce milieu-là, ça reste quand même quelque chose de surprenant un peu. Donc non, tu t'y attends pas. Je me souviens au tout début, quand on a commencé avec mon cousin, notre chaîne YouTube, après quelques mois, on s'est dit « Waouh, t'as vu, on a 500 abonnés, c'est fou, faut qu'on fasse quelque chose. » Et maintenant, on est bientôt 100 000 dans le monde de la rando, c'est fou un peu. Donc non, tu t'y attends pas trop. Et c'est une grande fierté, on va dire, parce que réussir à faire son trou sur les réseaux sociaux par rapport à la randonnée, c'est un sport assez, assez plat, entre guillemets. Hein. C'est pas comme le football ou les gens qui font de la glisse. C'est moins spectaculaire, il y a moins d'adrénaline. Donc il faut vraiment comprendre, il faut être randonneur pour comprendre ce que moi j'exprime, tu vois. Donc non, à la base des bases, ça part juste d'un plaisir. Et au final, ça se transforme en faisant des jolis chiffres sur les réseaux. Donc ouais, je suis content de fou. Hein.
Pouvez-vous nous parler de votre dernier projet réalisé, l'Exatrek, et pourquoi avoir voulu entreprendre ce projet ?
Alors l'Exatrek.
Qu'est-ce que c'est justement ?
C'est la traversée de la France à pied par tous les massifs montagneux de notre beau pays. Donc Vosges, Doubs, Jura, Haute-Savoie, Savoie, donc Beaufortin, Vanoise, Écrins, massif de Belledonne, Vercors, Drôme, Ardèche, Cévennes, Tarn, Languedoc et tous les Pyrénées, donc orientales, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, donc c'est toute la chaîne des Pyrénées. Pour finir, à Hendaye, bah, c'est 3000 bornes, hein, 3000 km à pied, en 109 jours pour ma part. Ça a été un sacré défi, sacré projet. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette traversée ? Parce qu'il en existe beaucoup de traversées de pays. Aux États-Unis, c'est très réputé. En Nouvelle-Zélande, enfin, il y a pas mal de pays qui ont déjà ce genre de sentier chez eux. Donc nous, ça a été créé il y a 2 ans, l'Exatrek, par des passionnés de rando, de marche longue distance comme moi. Et du coup, quand c'est sorti, je me suis dit, c'est obligé qu'un jour tu te lances là-dedans. On a, je pense personnellement, hein, un des plus beaux pays au monde en termes de diversité de paysages. C'est pas parce qu'on est français, tu vois, et qu'on dit, ah, c'est mieux chez nous. C'est juste réel. Tu peux passer par des champs de vignes et 2 jours après, t'es en pleine montagne dans la pierre. Et le lendemain, façon de parler, hein, tu peux te retrouver à la mer, tu vois. Donc, on a une chance de fou sur ça. Donc, voilà pourquoi l'Exa. En plus de ça, c'était un peu aussi un défi et un besoin d'aller me chercher, moi, personnellement. Parce que c'est, dans la vie de tous les jours, t'as pas trop le temps de réfléchir sur ta vie. Ce que tu aimes vraiment faire, vraiment, tu vois, quand je te dis ce que tu aimes faire, tout le monde peut me dire, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, ok, mais vraiment, dans le fond, est-ce que vraiment tu as déjà pensé une fois? Et pour ma part, non, parce que dans la vie de tous les jours, dès qu'on sent qu'on s'ennuie, on reste pas dans cet ennui, on appelle un pote, ça dit on va faire un tour, on va faire quelque chose, ou on se met sur TikTok, ou on regarde la télé, et là on se dit, bon là je m'ennuie, mais en fait tu t'ennuies pas vraiment. Tu occupes ton cerveau parce que tu as cette sensation de t'ennuyer un petit peu. Et moi, je voulais, tu vois, découvrir ce que ça faisait vraiment de s'ennuyer et de pouvoir rien faire d'autre que de s'ennuyer, du coup, de réfléchir à sa vie. Du coup, c'est pour ça aussi que je suis parti. Et ça marche vraiment, hein. Vraiment, vraiment. J'ai le temps de réfléchir. Hein.
Combien de temps êtes-vous parti ?
Alors, je suis parti 109 jours, du coup. On va dire 111 entre l'aller pour aller jusqu'à la frontière allemande. Et ensuite de Hendaye jusqu'à chez mes parents, à Fos. Donc ça fait 2 jours de plus, donc on va dire 111 jours. J'ai marché 93 jours et en tout j'ai mis 109 jours pour le faire. Donc c'est entre 93 et 109 jours. C'est les jours que j'ai pris de repos, où des fois au bout de 10 jours de marche j'étais trop fatigué. Je prenais un Airbnb ou un camping ou quelque chose comme ça. Je me reposais une journée, tranquillou, et après je repartais. Donc je suis parti 109 jours sur mon périple et 93 de marche.
Et combien de kilomètres marchez-vous tous les jours ?
Ça a été un peu, c'est un peu aléatoire parce que tu peux arriver dans des massifs comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes où tu sais, c'est la grosse montagne, tu passes à côté du Mont Blanc, donc c'est des milieux très difficiles, il y a souvent des grosses pierres, des choses comme ça, donc là tu avances moins vite, donc forcément tu mets plus de temps pour faire moins de kilomètres. Si tu arrives donc dans les Vosges par exemple ou en Ardèche, il n'y a plus de montagne, les chemins sont un peu plus larges, un peu plus propres, un peu plus faciles, donc tu avances plus vite. On va dire que sur une moyenne, sur toute ma traversée, j'ai dû faire du à peu près 28-30 km par jour. Il y a certains massifs, j'en faisais 42, 45, 48, parce que c'était plus facile. Il y a d'autres massifs dans les Alpes, il y a des jours où j'étais ou trop fatigué, ou moins envie de marcher qu'un autre jour, ou parce qu'il faisait pas assez beau, et du coup je faisais 20 km. Et la journée la plus longue que j'ai faite, c'est 56,5 km. Ça, c'est dans le Vercors. Je voulais me faire toute la traversée des plateaux du Vercors dans la journée. Donc je suis parti le matin à 4h30 et je suis arrivé à 23h30 à Châtillon en Diois. Ça c'était ma plus grosse journée. Mais plus jamais. Ah, je suis arrivé, j'étais dans un état, j'étais livide. Mais voilà, donc on va dire de moyenne étalée sur toute ma traversée, 28 km par jour, c'est bien. Ouais.
Vous vous êtes préparé physiquement pour ce projet ?
Oui, un petit peu obligé. Tu peux pas partir même si tu vois j'ai un petit peu d'expérience en termes de randonnée, que je connais un petit peu le milieu de la montagne, tu peux pas partir traverser la France entière sans avoir fait une petite préparation. Tu marches pas 3-4 jours, tu marches 3 mois et demi, donc il faut obliger que tu aies préparé un petit peu ton corps à ça. C'est pas forcément essayer de devenir hyper musclé, parce que quand tu es musclé tu es plus costaud, oui tu es plus costaud d'apparence, mais la rando c'est un peu particulier, tu te rajoutes du poids sur ton dos tous les jours, donc tu vois tu fais travailler ton corps différemment, tu as un centre de gravité qui est différent de tous les jours, c'est pas plat, donc tu prends des chocs sur les chevilles, sur les genoux, sur les cervicales, tout le temps. Donc j'ai plus peaufiné ma préparation pendant 6 mois sur du renforcement autour des genoux, prendre un petit peu des épaules, du dos pour renforcer tout ça qu'autre chose. Et après bien sûr de la rando, hein. Si tu veux être bon au foot, tu fais du foot tous les jours. Si tu veux être bon en rando, tu fais de la rando le plus possible. C'est dur d'en faire tous les jours, parce qu'il faut souvent prendre un véhicule, partir en montagne, s'il pleut ou il neige, des fois tu peux pas trop. Mais le plus possible, et toujours marcher avec un sac à dos. Donc je partais tout le temps marcher avec mon sac à dos, chargé à peu près avec ce que je devais emporter pour ma traversée. Donc j'avais à peu près 10 kilos tout le temps sur moi. Et donc tu vas marcher, tu reviens, tu vas à la salle, tu reviens, tu manges bien. Et je fais ça pendant 6 mois.
Pas de footing ?
Non.
Non, ça n'a rien à voir pour l'entraînement.
Si, ça peut être intéressant. Hein. Je suis quelqu'un qui n'a jamais trop couru dans ma vie. Footing, je parlais, j'ai fait 6 ans de foot, donc courir, oui. Mais partir courir comme ça, non, c'est pas trop mon truc. Le trail, c'est pareil. C'est bizarre parce que c'est deux activités qui se rapprochent beaucoup, qui se ressemblent beaucoup. C'est pas trop ma cam. J'ai un peu cette appréhension de me faire mal en trail. Si tu cours en montagne, c'est un le plus risqué, c'est pas quelque chose qui me botte de base, et en plus ça j'ai pas l'habitude, donc je me dis ça c'est deux facteurs qui peuvent faire que tu peux te faire mal. Mais j'y viens doucement et j'y réfléchis pendant ma traversée. Des fois quand c'était vraiment trop long, je me disais putain, si là tu pouvais courir un peu ça serait trop bien, et du coup ça m'a donné un petit peu cette envie là de goûter au trail, donc ouais on va se mettre au trail là, mais j'ai pas fait de course à pied plus que ça pour non, un petit peu de cardio à la salle, mais sinon non.
Quels sont les équipements nécessaires pour ce type d'expédition?
Les équipements, on va dire équipement standard rando. Après ça dépend comment tu veux le faire. Moi je voulais vraiment être autonome sur tout sauf la nourriture, parce que c'est très difficile d'être autonome totalement quand tu pars 3 mois et demi. Le plus important c'est que tu puisses bien dormir, t'abriter et manger. Donc une tente avec ton matelas gonflable, tu vois, de rando, ton sac de couchage, un petit réchaud avec une cartouche de gaz, une petite casserole pour faire bouillir de l'eau, pour te faire à manger. Et après, un petit peu les accessoires standards, ton sac à dos, forcément, c'est ta maison. Tu vois, que tu portes tous les jours sur le dos comme une tortue. Et une petite trousse à pharmacie, tu vois, si tu fais un petit bobo, si tu as des ampoules, des choses comme ça. Et sinon, des habits de rechange, une petite veste, une veste de pluie. Il n'y a rien de particulier. Hein. C'est c'est comme si tu vois, tu pars en montagne pendant 2-3 jours avec tes potes, tu dis allez les gars, on part en montagne, on se fait un kiff, on prend une tente, on dort dehors. C'est tous les jours pareil. Donc du moment que tu prends du matériel pour 2-3 jours, tu l'emportes pour 2 mois, 3 mois, 2 ans. C'est le même. Après, il faut qu'il tienne. Mais sinon, non, c'est l'équipement standard d'une personne qui va faire tu vois, un tour du Mont Blanc, comme j'avais fait il y a 2 ans. Je suis parti 6 jours, j'avais quasiment le même matériel pour 3 mois et demi. Parce qu'au final, tous les jours, tu répètes la même... je me lève, je marche, je mange, je bois, je dors. Du coup, ton matos, c'est le même.
Et pour la sécurité, c'est toujours une couverture de survie ? Ça,
moi, j'en prends pas.
Ah bon ?
Non. J'en prends pas parce que j'ai confiance en mon matos et je sais que ce que j'ai correspond bien à la saison à laquelle je pars. Je partirai jamais dans les Pyrénées, même si c'est en plein été, sans doudoune, sans gants. C'est important de rester au chaud. Si je prends un duvet, un sac de couchage qui va me tenir au chaud, si les températures avoisinent les 10-15 degrés, je sais que là, je vais mettre un petit peu ma vie en danger dans les Pyrénées. Donc, j'ai toujours adapté mon matos comme il fallait. Et du coup, ça joue. Hein. Si tu as trop froid le soir, vite, tu rentres dans ton sac de couchage, tu te mets au chaud. Donc, non, ça va, ça va. Pas de couverture de survie.
Combien pesait votre sac au début de les attraits ?
Il s'est allégé, bizarrement, au fur et à mesure de mon avancée. Au début, je suis parti avec un petit peu de confort. Pour filmer, j'avais pris un petit trépied, des petites batteries pour la GoPro en plus, des petites batteries pour ma caméra principale en plus. J'avais pris un petit parapluie. Je me suis dit, quand il pleut comme ça, tu mets ton parapluie, tu n'es pas trempé. Même si j'avais ma veste de pluie et tout, mais c'est quand même plus agréable d'avoir un parapluie pour le confort, pour pas que l'eau te tombe directement sur le visage et que tu sentes que ça ruisselle. Donc je me suis dit, allez, on prend un parapluie, on prend ci, on prend ça. Et au final, j'ai viré ces trois quarts-là de choses confort. Tu redeviens bizarrement un peu un animal après, hein. Donc il y a des choses, je dis bon, c'est pas grave, ça coule sur mon visage, ou alors ça, tant pis, je vais devoir poser ma caméra sur un bout de bois ou sur un caillou, plutôt que tant pis, ça enlève. Donc je suis parti à 10 kilos et des poussières, tout compris, donc tout mon matériel, un petit peu d'eau, et toujours 2-3 jours de bouffe sur moi, pas plus. La nourriture, tu en trouves un petit peu partout, donc j'étais à 10 kilos et des poussières, et au final, quand je suis arrivé dans les Pyrénées, je pense que j'avais perdu presque 1 kg de matériel. Donc j'étais descendu à peu près à 9 kg en tout de sac à dos. Mais vu que dans les Pyrénées c'est plus sauvage, je devais prendre plus de nourriture dans mon sac parce que les villages étaient beaucoup plus espacés. Donc au final, j'ai toujours eu un sac à dos entre 10 et 12 kg maximum, tout dépend des endroits dans les Pyrénées, c'est tout.
Qu'avez-vous mangé pendant l'Exatrek?
Eh ben, du coup, c'était un peu au petit bonheur la chance et beaucoup d'organisation aussi. Il y a des fois où je partais avec des lyophilisés, donc ces repas-là qui sont complètement déshydratés, et on va ensuite les réhydrater avec de l'eau chaude. Donc je prenais ça, ou parce qu'on a la chance aussi d'avoir un pays très riche au niveau culinaire, donc je profitais, tu vois, d'arriver dans des petites régions que je connaissais pas, que je découvrais pour goûter les produits locaux. Donc des épiceries, des petits magasins comme ça locaux. Et du coup, je faisais souvent, très souvent, plus que manger des lyophilisés, je faisais des ravitaillements de nourriture dans des petits villages dès que le sentier me permettait d'arriver dans un petit village. Et là, je prenais ma nourriture pour 2-3 jours parce que je savais que 2-3 jours après, il y avait un autre village. Donc, tu vois, j'essaie de vivre assez sereinement parce que l'eau et la nourriture, c'est hyper important. Si tu n'as pas de nourriture, c'est comme si tu n'as pas de gasoil dans ta voiture ou ta moto, tu vois. Tu ne peux pas avancer. Donc c'était important de bien gérer ça. Et pour bien gérer ça, il fallait que je sois bien organisé. Mais on reste en France. Il y a très peu d'endroits hyper, hyper sauvages où pendant une semaine, il n'y a rien. Ça arrive que dans les Pyrénées. Ça m'est arrivé une fois. Pendant 6 jours, j'ai vu aucun village, aucune maison, rien. Donc là, tu t'organises. Tu calcules. Tu dis, bon, par jour, je vais marcher tant de kilomètres. Tous ces kilomètres assemblés font tant de distance, et dans tant de distance, il y a ce village. Ok, bon, maintenant, il faut 6 jours de bouffe. Et quand tu arrives au village, t'es content.
Quels sont les risques sur ce type de terrain, et avez-vous rencontré des difficultés?
Les types de risques? Il y a des risques dans le milieu montagnard. Forcément, c'est un peu un milieu hostile. Hein. Quand tu es en montagne, tu te sens de suite moins à la maison, entre guillemets, pour les personnes, tu vois, qui seraient pas forcément trop habituées à ce milieu-là, tu te dis waouh, là c'est pas du tout les mêmes sensations que j'ai au sol, pourquoi ça bouge. Il y a forcément des risques en montagne tout le temps, faut être très lucide, faut pas faire n'importe quoi, faut être conscient que ça peut être dangereux et très vite. Il y a des endroits où t'as pas de réseau pendant des heures voire des jours. Il y a eu quelques fois où j'avais pas de réseau pendant 2-3 jours. Il faut rien qui t'arrive. Donc pour rien qui t'arrive, il faut juste être lucide, intelligent et faire les choses comme il faut. Donc quand tu vois que tu es dans de la pierre et que tu vois c'est des gros rochers et tu te repères des fois qu'avec des sortes de petites marques sur les rochers que les gens font, tu vois. C'est des marques en général, c'est blanc et rouge pour suivre les gros sentiers de randonnée. Tu te repères à ça, mais il faut faire attention où tu mets tes pieds parce que tu peux poser tes pieds entre deux roches et tu te casses la cheville. Ça peut arriver très vite ou tomber ou taper la tête. Donc oui, il y a des risques. Je pense qu'il faut juste faire bien attention à ce que tu fais et rester lucide. Des fois, j'étais trop fatigué et je sentais que 2-3 fois, tu vois, je trébuchais. Je dis là, t'es trop fatigué, tu fais n'importe quoi, pose-toi. Je m'arrêtais une heure, je mangeais un bout, je contemplais un peu le paysage et tu repars et j'avais bien fait de m'arrêter. Parce que là, je sentais que j'avais une baisse de régime et tant si je tire encore un peu sur la corde, elle casse. Et là, je me retrouve nulle part, sans réseau, personne sait où je suis et comment je fais. Donc là, c'est compliqué. Donc ouais, il y a des risques sur ce type de terrain. Là, en montagne, c'est particulier. Et est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Oui, mais il faut être toujours lucide. C'est ça qui est dur, c'est que tu dois toujours bien t'orienter, suivre bien ton chemin pour pas se tromper. Tu dois gérer ton eau, gérer ta nourriture. Tous les jours, quand tu pars, il faut que tu mettes un petit peu dans ta tête l'idée de où je vais dormir ce soir. Tu réfléchis toute la journée à est-ce que je vais réussir à poser ma tente ou pas, comment ça va se passer. Et en plus de ça, il faut que tu restes donc très lucide pour pas te blesser. Donc ouais, c'est particulier, donc tu peux te mettre en difficulté souvent parce que ton cerveau est très occupé. Ça m'est arrivé quelques fois d'être un peu en galère. Brouillard d'un coup, ce qui arrive, pouf, tu vois plus rien. Donc tu fais tout avec ta cartographie que tu as sur ton téléphone. Tu n'as plus le visuel ou des fois trop de vent, donc c'est Louis qui est mis un peu en difficulté. Il y a plein de facteurs qui va venir un petit peu brouiller tous tes sens. Et du coup, c'est pas forcément évident. Une fois, dans la Drôme, j'ai pris le plus gros orage de ma vie. Il y avait des éclairs tout le temps, sans cesse. Il y avait des éclairs partout dans le ciel. C'était la nuit totale. Donc j'étais un peu déboussolé complet. La frontale, tellement qu'il pleuvait, ça m'éclairait très peu. J'avais juste en fait les éclairs qui éclairaient un peu le chemin. Le chemin, c'était devenu un ruisseau tellement qu'il pleuvait. J'étais vraiment dans la vraie galère. Ça fait partie du jeu. Si tu commences à râler, si tu commences à dire « Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fous? C'est bidon. » Là, tu es mort. Le but, c'est de se confronter à ça, justement, pour essayer d'avancer, d'essayer de grandir, de s'endurcir. Donc, ouais, ça fait des difficultés qui font partie du périple. Tu vois, c'est comme si tu me dis « J'ai envie de faire du canoë, je vais faire du canoë. » Et tu tombes dans l'eau et tu râles parce que t'as bu la tasse, tu vois. Ouais. Tu as voulu y aller. Donc maintenant, let's go.
Avez-vous une journée plus difficile que l'autre?
Ouais, j'ai eu 3 jours très difficiles à la fin et 3 jours très difficiles au début. Au début, je pense que je suis parti un petit peu trop fort avec des chaussures pas adaptées à ce que j'étais en train de faire. Donc là, j'ai eu de très grosses douleurs au niveau des voûtes plantaires, les deux pieds en plus, et grosses douleurs au niveau des genoux. Donc là, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même directement. À peine tu pars, t'es déjà blessé. Donc ça, c'était très dur pendant 3 voire 4 jours même, où j'ai eu beaucoup de proches, tu vois, qui m'ont appelé, qui ont essayé un petit peu de me booster avec les bons mots, parce que j'étais un peu dans une bulle de négativité. C'est, je pars à peine, j'ai pas de chance, ou je pensais vraiment, tu vois, qu'on m'avait jeté un sort. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, je suis pourri là. Pourquoi il y a des gens qui m'en veulent? Donc ça a été très difficile. Heureusement que bon mental et j'ai réussi à faire face. Et après, à la fin, je suis arrivé, il me restait 10 jours. J'ai chopé la crève, mais vraiment, j'étais à plat. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, que tu as de la fièvre, tu as les yeux tout vitreux, tu as des courbatures dans tout le corps, tu as mal à la gorge. Il m'est arrivé ça, mais j'étais en pleine montagne, tout seul, dans ma tente, tu vois. Donc il y a de l'inconfort. En plus de ça, t'as pas de traitement, t'as pas de médicaments, oui, Doliprane, tu vois, mais un Doliprane, ça règle pas du tout ce genre de... Donc, il faut que tu marches, il faut que tu avances, parce que j'étais attendu, du coup, à Hendaye le 21 octobre, et je pouvais pas m'arrêter. Et du coup, ça a été très, très, très compliqué, parce que, normalement, dans ce genre de cas, t'as qu'une envie, c'est d'être au chaud dans ton lit, sous une couette, et encore des fois t'es sous la couette et d'un coup tu te gèles et d'un coup tu crèves de chaud et tu transpires, tu as froid. J'appréhendais de boire de l'eau tellement j'avais mal à la gorge. Donc là, ça a été vraiment très particulier et très difficile à gérer. Et au final, je l'ai fait. Donc maintenant, je sais que si j'ai un rhume, bah, c'est pas grave. Fais ta journée, tu as déjà fait bien pire. Donc ça endurcit aussi. Mais ouais, c'était très difficile, ce genre de journée-là.
Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant tout ce temps?
J'ai envie de dire mon chien, je crois. Ouais, je crois. on va même pas dire le manque de confort, parce que c'est quelque chose que j'ai voulu. Donc, pas un lit douillet, pas de chauffage. Ça, non, ça m'a pas plus manqué que ça. Puis en plus, j'ai fait des fois des jours où je m'arrêtais, donc je prenais un petit Airbnb ou quelque chose comme ça. Donc bon, un lit tous les 10-15 jours, c'était cool, ça suffisait. Mais je pense que c'était plus le manque affectif. Ouais, je dirais mon chien, vraiment. Alors, bien sûr, ma famille, mes proches, madame, etc. Ça, y a. Mais mon chien, c'est mon compagnon depuis 6 ans. Je suis tous les jours avec lui. On partage un petit peu tout. Dès que je suis en montagne, sauf l'été, je suis avec lui. Donc, ça fait un gros vide. Et 3 mois et demi dans une vie d'un chien, c'est beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup travaillé. Mais sinon, ouais, la famille, les proches. C'est important.
C'est pas possible d'emmener un chien pour ce genre d'aventure.
Non, ça aurait pu, hein, si ça avait été peut-être plus court. Là, il y a plusieurs facteurs. Tu as déjà les parcs nationaux qui interdisent les chiens, même en laisse. Donc ça aurait voulu dire que j'arrivais, par exemple, dans le parc de la Vanoise. C'est très réglementé, tu n'as même pas le droit de poser ta tente où tu veux, alors que tu es en pleine montagne. Il faut que ça soit à côté des refuges, il faut payer ton emplacement pour poser une tente. Et du coup, bah, chien interdit. Donc ça aurait voulu dire que j'arrive devant le parc, quelqu'un vienne me récupérer mon chien pendant 4-5 jours que je traverse le parc pour me le ramener après. Bon, hyper compliqué. En plus de ça, l'été, il y a des troupeaux de partout. Donc qui dit troupeau dit chien de protection. Je gère très bien ce facteur-là. J'ai aucunement été embêté par des patous ou quoi que ce soit. J'ai l'habitude. Je suis très ouvert sur ça, je comprends totalement pourquoi ils sont là, pourquoi cette agressivité, donc je le gère très bien. Avec un chien en plus, c'est pas pareil. Plus un chien mâle, j'ai un husky, c'est quelque chose d'assez imposant. C'est compliqué à gérer, très compliqué. Plus la chaleur, c'est un husky. Et je me voyais pas lui imposer 3 mois et demi de marche en plein cagnard, parce que tout dépend des endroits, j'étais vraiment en plein cagnard. Donc c'était... Non, très compliqué à gérer. Puis juste de base, les croquettes. Déjà pour moi, la nourriture, c'est compliqué. Alors ces croquettes à lui, je sais pas comment j'aurais fait. Donc non, ça aurait pas été possible d'amener Nao, mais sinon, oui, c'est, je crois que c'est ce qui m'a manqué le plus, ouais.
Quelle a été votre région préférée pendant cette traversée?
Ouh, c'est dur à répondre, parce que du coup, j'en ai vu beaucoup. Pour une personne qui n'a jamais vu les Alpes, je pense que la réponse aurait été... un peu plus difficile, parce que du coup là c'est plus facile pour moi de répondre, parce que les Alpes je les connais très bien, et du coup quand je suis passé par les Alpes pour ce projet là je connaissais un peu les trois quarts de ce que j'avais vu. Là, il y avait à peu près 500 km dans les Alpes, et j'en connaissais vraiment les trois quarts. Donc en fait tous les jours je arrivais quelque part et je disais bah oui je connais, donc c'était toujours oh waouh c'est trop beau. Effectivement, dans mes souvenirs, je me souvenais que c'était beau, mais ouais, c'est très très beau. Il y avait des lacs magnifiques. T'arrives dans la vallée du Mont Blanc, t'as le Mont Blanc en face, t'as des lacs partout, tu te dis waouh. Mais vu que j'étais déjà venu, j'ai moins eu ce choc, ce coup de cœur, ce waouh, c'est incroyable. Par contre, dans les Pyrénées, vu que j'avais jamais fait les Pyrénées, là j'ai eu ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai traversé les Alpes. Que des surprises, dès que tu montes un col. Tu as la récompense de la difficulté de monter un col, d'arriver là-haut, de voir des paysages juste magnifiques. Là-bas, dans les Pyrénées, ils ont des chevaux lâchés en liberté comme ça dans la montagne. C'est impressionnant à voir. Tu as des vaches partout, mais pareil, en liberté, il y a très peu de barrières, de choses comme ça. Donc, je dirais la partie ariégeoise des Pyrénées. L'Ariège, c'est pour moi la zone où il y a le plus de sauvages en France, en termes de milieu montagnard. Donc, je dirais... L'Ariège dans les Pyrénées, pour moi, le plus beau passage de ma traversée.
Avez-vous eu des partenaires pour vous aider à réaliser ce projet?
Oui. C'est pas obligatoire. Vu que moi, c'est mon travail et que derrière, je vais proposer donc, la réalisation d'un documentaire sur ma traversée, plus des épisodes sur YouTube, il fallait quand même tu vois, que j'arrive à rentabiliser cette aventure, parce que sinon, c'est partir et ensuite de ça en plus débourser de l'argent pour réaliser un film, etc. Ça coûte de l'argent de partir sur une traversée de la France, même si tu te dis je pars à pied et je fais de la randonnée, ça coûte vite cher, donc t'as le matos déjà à acheter pour partir. Ça aussi, tu vois, j'ai la chance de me le faire donc envoyer gratuitement, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance là donc du coup oui, ça coûte de l'argent. Du coup, partenariat un peu obligatoire pour moi. C'est un peu dans ma philosophie, je choisis mes partenaires, peu importe le projet, peu importe la somme d'argent que j'ai besoin. Peut-être que j'arriverai pas à remplir l'enveloppe entière parce que j'aurais pas trouvé les partenaires qui correspondent à ce que je veux. Ça n'a pas été le cas là, on a vraiment bien géré le truc. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des marques de matériel, il y a des marques de vêtements qui m'ont accompagné. Je peux les citer peut-être, hein. Il y a Oco Europe, ça c'est mon partenaire principal du projet. Donc eux ils proposent des gourdes filtrantes, donc c'est grâce à leur gourde que j'ai pu du coup boire de l'eau potable sur tout mon parcours. Et je sais qu'il y a des gens qui font 100, je sais pas comment ils... de l'eau croupie ou de l'eau dans qui est, quand tu mets de l'eau dans ta gourde et qu'elle est verte ou marron, donc j'étais bien content d'avoir ce genre de produit. Donc il y avait Oco Europe qui m'accompagnait, Atlas Formen, c'est une marque qui propose des vêtements et accessoires accès outdoor pour les hommes et maintenant les femmes, et ensuite d'autres marques, donc Camelback qui font des sacs à dos, Osprey aussi qui font des sacs à dos, Whimper et Figeni, ça c'est des applications comme je disais pour s'orienter. Avoir une carte hygiène, une carte de randonnée pour savoir où c'est que je vais, le dénivelé, etc. Et voilà, bon, j'en passe, mais je crois qu'ils étaient 8 à soutenir. Et ça fait plaisir.
Qu'est-ce que vous a apporté l'Exatrek au point de vue personnel ?
Beaucoup de choses, parce que tu pars un peu à la découverte de toi-même. Parce que je pense pas que ça arrive à grand monde de se retrouver 3 mois et demi quasiment tout seul. J'ai pas été pendant 3 mois et demi tout seul, tous les jours. J'ai rencontré du monde. Je bossais avec une boîte de production donc, qui est venue me faire mon film. Donc on se voyait de temps en temps, une fois par mois, 4-5 jours. J'ai 3 amis qui m'ont accompagné pendant, pareil à chaque fois, 4-5 jours. Mais du coup, on va dire 80% du temps, j'étais tout seul. Donc ces moments-là, quand tu es tout seul, tu apprends à te connaître, tu te poses les bonnes questions sur ta vie, tu réfléchis à vraiment le pourquoi du comment tu as voulu faire cette aventure. C'est très profond hein, comme recherche, comme voyage. C'est pas que physique, c'est beaucoup aussi de la recherche spirituelle. Tu vas réfléchir au sens un petit peu de ta vie. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, confiance en soi que j'avais pas trop. Je savais que j'étais pas mauvais dans ce que je faisais, mais des fois, il faut se faire rentrer dedans un petit peu par la vie pour comprendre certaines choses. Et là, j'ai bien saisi. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Sur moi, en particulier, beaucoup, beaucoup de choses liées à mon boulot, que je pouvais avoir un travail de ce genre-là en étant juste moi. Tout simplement que, je pense que j'étais une personne... qui avait pas mal de capacités, c'est important. Il me fallait ce petit déclic, je pense.
Le retour à la civilisation a-t-elle été compliqué après tout le temps passé dans la nature et les montagnes ?
Un petit peu, hein. un petit peu. Tu passes 3 mois et demi dans un milieu totalement différent de notre ville d'habitude. Quand tu reviens, c'est ça qui est. En fait, c'est même pas le milieu. Il y participe, hein, mais c'est plus l'aventure que tu vis. Tu es tout seul, tu vis quelque chose pendant longtemps. Et le fait d'être longtemps coupé de tout, et pendant que les gens gardent leur vie, entre guillemets, classique qu'on a tous, toi, tu crées quelque chose, tu vis quelque chose, et quand tu reviens, tu sais qu'il y a les 3/4 des gens que tu as quittés, ils n'ont pas trop évolué, tu vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Comme d'hab, boulot, tranquille, apéro le week-end avec les copains, tu vois. Toi, tu as plein de choses à raconter, tu as évolué dans ta tête en 3 mois et demi, tu vois, tu as pris de l'expérience de fou. Du coup, tu te sens un peu en décalage, il faut se recaler sur tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle trop, tu vois, qui assieds-vous les gars, je vous raconte, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est trop bien, et moi, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai pas trop raconté, en fait, mon périple. C'est beaucoup les gens, alors, vas-y, raconte-moi. Je peux pas te raconter. Tu comprendras pas, parce que tu as pas vécu, tu fais pas de rando, tu ne sais pas ce que ça peut procurer de gravir un col et prendre une gifle dans ta tête parce que c'est trop beau derrière. Donc pourquoi je vais te raconter tout ça? Et puis tu me demandes de tout te raconter là. On est en train de boire un coup, on est en train de promener mon chien, on en a pour 15 minutes, je peux pas te raconter.
Ouais, c'est ça.
Donc j'étais un peu bloqué. Tu as vécu un truc de fou et les gens ils te disent bah, tu nous racontes rien. Ouais, je j'ai ni l'envie et je sais très bien que vous comprendrez pas trop ce que j'ai vécu. Pas que vous, je dis pas vous êtes trop bête pour moi. C'est pas ça. C'est vous pouvez pas comprendre parce que vous en avez pas fait. Du coup, j'arrive pas à avoir les bons mots et à sortir vraiment les bonnes choses pour vous expliquer. Et je boudais aussi un peu, tu vois, que ça soit fini. J'étais triste. J'étais un peu nostalgique de mince, je suis enfermé chez moi quoi. Alors tu vois, on habite à la campagne, c'est bien Digne, ça correspond à peu près à... Mais tu te couches, t'es dans ta chambre, dans ton lit, et tu fais ça tous les jours, alors que pendant 3 mois et demi, ta chambre, elle est différente tous les jours. Tu vois, tu ouvres ta tente, t'as un décor, tu la fermes, c'est un autre décor, c'est et ça. Tu la réouvres le lendemain, c'est un autre décor. Donc il y a eu beaucoup de difficultés à revenir un peu dans le monde... les gens, le bruit, tout ça, c'était un peu particulier. Ça va, je commence un petit peu à revenir un peu dans les clous là. Au début c'était compliqué hein. Je me souviens, je suis revenu un vendredi à Digne. Du coup je suis rentré de Hendaye, je suis rentré chez mes parents à Fos, je suis resté 5 jours chez eux parce que je voulais pas rentrer tout seul chez moi, j'appréhendais. Un vendredi je prends la route de Fos jusqu'à Digne. Sur la route, il y a mon meilleur ami qui m'appelle. Il me dit ça y est, tu reviens. Je dis oui, on se voit aujourd'hui, j'en peux plus. Tu vois, ça fait 3 mois et demi qu'on s'est pas vu. Je vais rentrer chez moi, je vais poser mes valises, on va voir ce que ça me fait de rentrer à la maison et après on voit. Et c'est mon meilleur ami, tu vois. Donc je me dis, il t'attend depuis trop longtemps, donc vas-y, ça y est, je suis arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit on va boire un coup ce soir. Waouh. Je crois pas. Mais bon, voilà, je voulais lui faire plaisir. Du coup, on allait boire un petit coup en ville, tu vois, à Digne. Et je suis resté une heure, je peux pas. Faut qu'on parte, je suis désolé. Ils comprenaient pas trop, tu vois. Et c'est pour ça que je m'exprime pas trop encore sur ce que j'ai vécu, parce que c'est loin d'être quelqu'un de bête, mon meilleur ami, mais il a pas trop saisi sur le... On y va. Et on vient à peine se revoir, là, de... Oh. Faut qu'on trinque, oui. Tranquille. Enfin bref, voilà.
Avez-vous eu des nouveaux projets à venir?
Oui, il en faut. Alors c'est particulier parce que quand tu reviens de ce genre d'aventure là, tu n'as plus envie de rien, mais rien du tout. Tu as juste envie de te poser chez toi et tu te dis la vie est comment dire, je sais pas comment l'exprimer. Tu te dis j'en ai assez fait, maintenant lâchez-moi, j'ai juste envie de plus rien faire du tout. Et tu as l'impression que c'est un dû, tu vois, on te doit de te laisser tranquille et là je travaille pas et là je fais rien et je fais ce que je veux parce que j'ai fait ça. Et en fait ça dure quelques jours et en fait non, moi j'aime pas me... 2-3 fois je me suis dit ça va, aujourd'hui travaille pas, c'est bon, tu feras tes montages demain, oh t'as bien mérité, c'est bien, mais si tu fais ça 2-3 jours, si tu te noies là-dedans, je pense que tu tombes un petit peu en dépression parce que tu n'as pas repris ton taf qui t'anime depuis toujours. Tu te reposes sur tes lauriers, tu sais que tu prends du retard, donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc en fait, j'ai vite repris à réfléchir à ce que je pouvais faire après, qu'est-ce qui me plairait. Très difficile à réfléchir parce que tu sors de 3 mois et demi de marche en montagne, tu rentres et il faut que ton cerveau y réfléchisse à ce qu'on fait après. Et waouh, tu as juste envie de rien, tu sais même pas si tu as envie de repartir un jour autant de temps, tu sais même pas si tu vas reprendre de plaisir à marcher parce que tu as marché trop de temps. Enfin, c'est très compliqué. Mais du coup, je me suis quand même posé. On a réfléchi un petit peu avec mon équipe là, qui bosse avec moi et Je pense qu'on va faire des choses plus courtes maintenant, mais un peu à l'étranger, pour proposer aussi un petit peu autre chose. On va traverser la France, maintenant on va pouvoir un petit peu aller voir à droite à gauche. Donc fin janvier, je pars au Maroc. Normalement, on va faire le Mont Toubkal, c'est le sommet le plus haut du Maroc. Ensuite, je pars en mars en Laponie pour 8 jours de trek en Laponie, Laponie suédoise. Et Jordanie au beau jour, si tout va bien. Normalement, je pars en road trip en Suisse. Ça sera plus Suisse ou Italie. On est en train de réfléchir pour faire un road trip avec une tente de toit 4x4, etc. J'aimerais bien faire les fjords en Norvège en canoë. Ça, c'est à réfléchir. Je ne sais pas si on pourra le caler en 2024. Et c'est pareil, si j'ai le temps, je pense que ce sera plus 2025. J'aimerais bien créer mon propre trek à moi, que je vais réfléchir, tracer. Je pense que ça se fera ici dans la région, pour que ça soit un trek qui corresponde un petit peu à ce que je suis moi, où je vis. Enfin bref, là c'est vraiment les prémices. Enfin non, c'est pas les prémices, tout est calé déjà, mais il faut le temps. Et après, projet d'été prochain, on verra. Il y a les États-Unis en tête. Il y a Nouvelle-Zélande, je sais pas. Faut prendre le temps de réfléchir. Mais il y a déjà des petits projets comme ça, là, sympas qui arrivent. C'est cool.
Que diriez-vous à des jeunes qui ne se sentent pas capables de réaliser leur projet?
Vous avez tort. Vraiment, vous avez tort. Non, c'est un peu un discours bateau, mais c'est vraiment ce que j'ai appris durant toute ma traversée. Je suis arrivé à un stade où je me disais à moi-même, mais en fait, tu es capable de tout. Tu es vraiment capable de tout. Tu es une machine. Et c'est bizarre de se dire ça à soi-même. Tu dis, ouais, ça va, tu te prends pour qui, là? Mais c'est réel. Il y a des jours où je pleurais de joie en me rendant compte que le corps humain et le cerveau, c'est de la folie. Vraiment. Tu marches, t'es malade, t'as de la fièvre, tu fais 32 km dans la journée, et le soir, t'arrives encore à monter ta tente, faire à manger, à penser à ton travail, et en même temps, tu te soignes. Le lendemain, tu motives ton cerveau, tu te dis là, t'as pas le choix. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te réveilles, toi, là-dedans. Et on a encore du taf aujourd'hui, et ça va être dur, t'as pas le choix. Ou, tu vois, des moments difficiles où il y avait de la solitude, mais trop, ou même la musique dans tes oreilles, ça te fait plus rien, alors t'écoutes des musiques que tu aimes bien, tu vois, que même des fois où tu chantes, tu danses, c'est là que tu les mets, il se passe rien, c'est pas grave, je vais quand même faire cette journée, et demain on verra, et au final tu fais encore, et tu regardes ta carte, ta montre, tu dis, ben en fait là j'arrive dans 5 jours, c'est fini, je l'ai vraiment fait, quoi. Alors tu dis, non, je suis pas capable au début. Au début, quand je me lance là-dessus, donc je prends la décision en janvier 2023, j'annonce donc à mon agent que je veux faire ça et du coup qu'on lance vraiment les démarches, j'étais même pas sûr d'y arriver, et pour moi j'étais dans un mood de mais t'y arriveras pas, c'est pas possible. Si, tout est faisable. Regarde, c'est un exemple parfait. Inox, il va monter l'Everest, mais je spoil, mais il va le faire. C'est certain. Après, tu as un facteur météorologique ou un problème de santé qui intervient d'un coup, et tu peux rien y faire. Ça arrive. Il va monter l'Everest. Ça fait un an qu'il se prépare, et le mec, il vient du gaming, tu vois. Ça geek sur Fortnite, et le gars, il monte l'Everest 2 ans après. Il va le tabasser, l'Everest. C'est certain. Je le vois comment il se prépare, je vois la déter qu'il a, c'est sûr. Donc n'importe quoi que tu as envie de faire, si tu te dis je suis pas capable, c'est que c'est sûr que tu vas le faire. Parce que ça veut dire que tu doutes de toi, mais dans le fond, tu sais, il y a une flamme là, tu sais ce que tu vaux, vraiment. Et il faut juste la cassure de ta vie de tous les jours qui te garde dans ce truc de hop, ouais, je suis pas trop capable pour faire. Si déjà tu as l'idée d'un projet dingue, ça veut dire que tu es capable. Après, il faut juste donner les moyens et il faut avoir un bon cerveau, tu vois. Tu sais que tu vas te faire un peu tabassé par la vie, un petit bobo là, un petit ci, un petit ça. C'est pas grave ça. Il y a deux jours, je marchais, j'avais des douleurs, je me dis, là, ça va péter. Il y a un tendon qui va péter, c'est sûr. Tant pis. Et je me parlais là-dedans, je me disais, tu n'as pas le choix, répare-moi ça, là, je sais pas comment tu vas faire, répare-le ça. Il faut y aller. Donc c'était dur des fois. Mais si tu as envie, tu fais. Donc, pas capable pour moi, c'est impossible. Tu n'es juste pas assez discipliné pour faire quelque chose, ou alors tu es trop heureux, c'est tout. Pas capable, non, c'est pas possible. Tout le monde est capable, c'est sûr. je parle pour ce projet-là, tu vois, par exemple, de traverser la France, mais pour autre chose. Je suis pas capable de monter une entreprise, ou je suis pas capable d'éduquer un enfant, ou je suis pas capable de... Peu importe. Non, non, non. Tout ça, c'est fake, ça. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. Il faut juste prendre conscience de son potentiel et le travailler. On a tous un bon cerveau, tous. À chacun de le driver après comme il entend. Il y a des gens qui se gâchent. Ça, j'en ai vu, tu vois. Je connais des potes à moi. Ils ont des mains en or. Ils sont très, très bons dans leur boulot. Ils sont pas disciplinés. Ils ont une vie rock'n'roll. Ils se laissent un petit peu emporter par des choses qui peuvent que te tirer vers le bas. Bah, du coup, bah, ils se gâchent dans leur vie professionnelle alors qu'ils pourraient exceller dans leur taf, tu vois. Ils sont tout à fait capables. C'est pareil pour tout le monde. Discipline, rigueur, détermination. RDD, c'est un petit peu ma... ça a été un peu mon dicton, c'est mon agent quand on est parti sur ma traversée de la France là, qui m'a dit, écoute Nico, RDD, rigueur, discipline, détermination. C'est trois mots, c'est comme ça.
Nicolas, merci. Je pense que Alexandre a envie de poser une dernière question.
Vas-y, vas-y.
Pourquoi vous avez fait l'Elsa Trek? Un défi, c'est...
Le fond du fond, j'avais besoin d'extérioriser plein de choses qu'il y avait dans ma tête, qui me trottaient depuis 10 ans presque. J'avais besoin de faire sortir ça de moi. Ça, c'est une des raisons principales. Ça n'a pas forcément fonctionné. Tu vois, il y a des choses qui sont toujours dans ma tête que j'aurais bien aimé réussir à sortir une bonne fois pour toutes. Ça n'a pas forcément fonctionné. C'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler dessus. Et sinon, c'est vraiment essayer de comprendre qui j'étais, ma personne. On sait tous à peu près qui on est, mais on sait pas tous réellement notre potentiel, ce qu'on aime vraiment dans la vie. Est-ce qu'on est capable de réagir à des moments de difficulté? Est-ce qu'on sait pas trop tout ça dans la vie, parce qu'on a un confort, tu vois. Comment seul on arriverait à gérer des difficultés dans la vie? Ben, je vais déjà partir en montagne tout seul, voir si j'arrive à gérer un orage, voir si j'arrive à gérer le froid, si j'arrive à gérer si ma tante se casse, comment je fais, est-ce que je suis un débrouillard ou pas, est-ce que j'ai besoin des gens pour me débrouiller dans la vie ou pas. Et il fallait que j'aie des réponses à tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, pars tout seul, toi contre toi-même ou avec toi-même, et ça a été moi avec moi-même, donc ça va. J'ai gagné.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc,
de rien.
Diamantara, vous nous donnez le nom de la chaîne YouTube ou Instagram,
ouais,
ou partout
c'est...
où on peut suivre votre actualité.
C'est un petit peu le même nom sur toutes les plateformes. C'est Trek Attitude, Trek comme Trek, T-R-E-K, Attitude comme l'attitude, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Mais on va dire principalement YouTube et Instagram, c'est là où il y a le plus d'activité.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour
avec plaisir. Merci à vous, les gars.
Et cool. Vous êtes contents, Enzo, Alexandre et oui. Fabio? Oui, ça a répondu à toutes vos questions. Oui. Est-ce que ça vous donne une envie de réaliser des rêves, peut-être?
Il faut.
Un jour, je vais te voir sur Mont Blanc, toi. Voilà. Tu seras tout là-haut.
Allez, merci à vous. Et
merci à vous.
On retrouve cette émission en ligne sur notre site très prochainement. Merci, bonne journée.
Au revoir.
Dites questions à une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence.